Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est toujours avec Paul Lassaigne, avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau, avec la militante écologiste Anne-Sophie Saint-Père et avec le journaliste Daniel Riolo. Dans un instant, on va parler de ces marques tricolores emblématiques en difficulté. Est-ce qu'il faut se forcer à acheter Made in France pour sauver nos entreprises? Dites-nous tout au 3216 et sur l'appli RMC. Dites-nous si, par exemple, vous faites cet effort ou si, au contraire, vous ne le faites pas parce que c'est trop cher. RMC Conso, ce sera à 14h30 avec Charlotte Méritant. On parlera du succès du Drive. Voilà, ça cartonne et on vous dira pourquoi. Les Immanquables, ce sera à 14h35. On aura quoi, Paul?
Fanny Ardant qui prend la défense de Roman Polanski. Si vous devez prendre l'avion à Orly la semaine prochaine, eh bien, une nouvelle grève est prévue. Ah. Et puis, il ne fait pas bon être cycliste à Marseille. Je vous raconterai pourquoi.
Et puis on aura Vincent Serroussi, notre humoriste, à 14h50. Et puis on vous offre un superbe cadeau, Paul.
Oui, puisqu'à quelques jours de l'Euro 2024, le coffre RMC est de retour toute cette semaine. Si vous êtes sélectionné, on vous offre déjà un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 €. Mais vous pouvez le remettre en jeu en ouvrant le coffre. Deux solutions si vous ouvrez le coffre. Soit vous remportez une enceinte connectée à LED avec micro pour écouter RMC, soit la Total Euro 2024. Un vidéoprojecteur Samsung, un barbecue électrique et fumoir Ninja, un fauteuil FFF de la marque Koenigs, une machine à glaçons et la mascotte de l'Euro 2024. Alors dès que vous entendez ce signal à l'antenne, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16, coffre au 732-16.
RMC Estelle Midi.
14h04 sur RMC. On poursuit Estelle Midi tout de suite avec les difficultés du jour et elles concernent les marques de textiles Made in France. Plusieurs entreprises emblématiques sont en danger à cause de leurs prix souvent plus élevés que ceux de leurs concurrents. Exemple avec la marque Le Slip français, obligée de diviser ses tarifs par deux pour ne pas mettre la clé sous la porte, Paul.
Oui, ce ne sont pas les seuls à être en difficulté aujourd'hui. Les verres Duralex, les chaussures Pérus qui ont tout fait eux pour relocaliser leur production en France, ou encore l'important fabricant de t-shirts en lin. Et pourtant, Estelle, les Français aiment le Made in France et en veulent plus. D'après une enquête Opinionway qui date de la fin d'année 2023, ils sont aujourd'hui 85% à affirmer qu'ils consomment régulièrement des produits fabriqués localement, avec en premier lieu l'alimentaire, puis viennent les produits d'hygiène et de cosmétiques, puis enfin les vêtements. La forte inflation qui touche depuis 2 ans est très clairement visible dans cette étude. 67% des interrogés déclarent que ces hausses de prix ont eu un impact direct sur l'achat de produits Made in France. Parmi eux, 7 sur 10 estiment que ces produits sont encore trop chers. Et pourtant, d'après l'enquête d'Opinionway, il y a une vraie appétence pour les produits nationaux. 89% des Français souhaitent consommer davantage de produits Made in France. Ce chiffre monte même à 93% pour ceux qui en achètent déjà. Alors, parmi les leviers que les interrogés avancent pour plus consommer, la relocalisation, bien évidemment. 83% achèteraient un produit si sa production était relocalisée en France, avec en priorité pour les Français l'alimentation.
Alors, faut-il se forcer à acheter Made in France pour sauver nos entreprises? Daniel Riolo.
Ça me fait un peu penser à ce que je viens d'entendre, là, que Paul a raconté, à le jugement qu'on porte sur une chaîne comme Arte. On kiffe tous, on trouve que c'est formidable,
mais au fond,
il y en a peu qui regardent. Et là, c'est pareil, c'est un souhait. Tous les sondages montrent que c'est un souhait, que les gens aimeraient, que ça serait mieux. Et en fait, tout reste au conditionnel, finalement. Parce que on s'aperçoit que d'abord, quand tu étudies les critères d'achat, la fabrication, où est fabriqué le produit, ça arrive qu'en quatrième position, parce que c'est évidemment le prix qui détermine, la qualité en deux, et puis je me souviens plus quel est le troisième critère, mais c'est certainement pas la nature de la fabrication. Et oui, si c'est plus cher, si en plus la qualité, ok, c'est mieux, mais c'est pas transcendant, ou ce sont des marques qui étaient des hypes et dont la mode passe vite, comme justement le slip français. Tu te détournes finalement. Est-ce que pour arriver à ça, parce qu'on a bien compris que derrière il y avait une notion un peu liée au protectionnisme, à faire marcher nos boîtes et tout. Je sais pas, je me souviens d'une époque où les Américains t'achetaient une bagnole US, t'avais une grosse ristourne, ou tu payais plus cher la voiture étrangère et celle de ton pays, tu la payais moins cher. Peut-être qu'il faudrait inciter dans ce cas-là.
Mais ça
vaudrait pour la grosse industrie. Mais après, pour l'alimentation, oui, le produit français, t'as toujours l'impression. Puis après, on nous dit tout le temps, c'est meilleur. c'est pas toujours si évident. Hein.
Ça, je suis d'accord. Mais
et tu payes plus cher, quoi.
Mais pour ceux qui ont un pouvoir d'achat très bas, évidemment, qui vont pas se forcer à acheter Made in France. Mais là, on va dire pour nous, voilà, pour les gens qui ont les moyens. Est-ce que nous, par exemple, consommateurs et avec des moyens, on doit se forcer à acheter Made in France pour sauver nos entreprises?
Pour un produit, allez, bête en ce moment, qui est beaucoup dans les supermarchés, les fraises.
Mmh. Bon, mais est-ce que c'est meilleur là pour le coup?
Sur
un caleçon.
Mais là, moi, je paye quand même 1 euro plus cher la barquette, mais je sais que c'est meilleur parce que quand tu prends les autres, si tu mets pas du sucre, du citron ou je sais quoi dessus, tu peux pas les bouffer.
Ça, je suis d'accord. Sur un caleçon, le slip français, j'ai été regardé tout à l'heure.
Je m'en fous.
C'est 45 euros.
Mais il coûte super cher.
45 euros.
Mais c'est super cher.
Sauf leur pack, là, effectivement, divisé par deux. Mais sinon, un caleçon un peu sympa, là, c'est 45 euros.
Un peu sympa de quoi? Un peu sympa du marketing. Parce qu'ils ont
peut-être, mais c'est français.
Le tampon, le slip français, le nom de la marque, la pub, le gars tout.
Alors, est-ce que t'es capable d'acheter 45 euros? D'accord. Alors, est-ce que tu fais l'effort d'acheter un caleçon le slip français à 45 euros ou est-ce que tu continues à acheter tes caleçons, je dis n'importe quoi, mais 10 euros? Voilà. Est-ce que tu ferais l'effort de payer plus pour avoir un caleçon français?
Je suis pas sûr parce que je suis pas convaincu de la qualité, je suis pas convaincu que ça vaille réellement le coup.
D'accord.
Je vais faire en fait chacun voit midi à sa porte et choisit pour, comme je te disais, pour les fraises, pour la viande ou pour je ne sais quoi. Chacun fait un petit peu comme il a envie là-dessus, quoi.
Les fraises, il n'y a même pas photo entre la qualité des unes et des autres.
C'est déjà bien. C'est parce que t'as l'argent pour le faire.
D'accord.
La plupart des gens ne peuvent même pas faire ce choix.
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que, encore une fois, je mets pas quelqu'un qui gagne le SMIC, je ne demanderai pas d'acheter un caleçon à 45 euros, c'est pas du tout le propos, mais est-ce que quand aujourd'hui on a, on va dire un bon pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut que les consommateurs achètent français parce que c'est aussi de notre responsabilité finalement la survie de ces entreprises?
Entreprises
de faire l'effort.
Pour moi, il y a plusieurs critères en fait dans l'achat. Globalement, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Pour moi, c'est toute la chaîne de production et l'impact que ça va avoir sur la planète qui compte. Effectivement, acheter français, ça peut être moins de transport, mais pas toujours. Quand vous êtes à Lille, vaut mieux acheter belge que acheter marseillais. Enfin,
oui, c'est vrai,
ça dépend où on est, ça dépend comment est fabriqué le produit. Bon, il y a aussi un peu quand même quand on y a marqué que c'est fabriqué en France, ça veut dire que 45% de la valeur ajoutée du produit vient de France, mais ça veut pas forcément dire que la chaîne est hyper clean avant.
C'est ça le problème.
Et acheter, c'est moi je déteste faire du shopping. En fait, ça me dérange pas plus que ça. Globalement, mes fringues, je les achète plutôt en deuxième main parce que comme ça.
Mais est-ce que tu regardes ta deuxième main si c'est acheté français
slips.
Ou pas?
Alors non, deuxième main non, et pas les slips en deuxième main effectivement. Quand c'est de l'occasion, quand c'est de la brainerie, etc. Je regarde moins. Mon boycott absolu, c'est la Chine. Parce qu'il y a du travail forcé et que c'est un des rares moyens de pression qu'on a, même si je pense pas que ce soit.
Mais ça se trouve, ta veste, elle est made in China.
Celle-ci, il faudrait que je regarde. Je regarderai.
Quand c'est deuxième main, en tout cas, tu t'en fous, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais toi, tu vas pas être vertueuse au point de n'acheter que français, par exemple.
Non, après ça peut aussi, ça peut quand même être un critère parce que ça voyage moins. Ça va dépendre du produit, mais il y a aussi la question de la durabilité du produit. Moi, dans les entreprises qui sont en difficulté, ça me fait beaucoup de peine. Il y a Duralex. Duralex, c'est pas hyper cher, qui font des Tupperware en verre géniaux. Je sais pas, achetez-en
avec le petit numéro comme quand on était à la cantine,
parce que
Duralex.
Je comprends pas pourquoi ils font faillite. Et vraiment ça me pour le coup, entreprise française, super produit.
Ils font faillite à cause de la hausse des prix de l'électricité qui font ça a coûté trop cher à un moment, ils ont dû se mettre en chômage partiel. Du coup, les commandes qu'ils avaient, ils ont pris du retard. Et en fait, les gens, comme il n'y avait plus de commandes sur les sites, ils ont commandé autre part. Et en fait, les verres.
Ça vaut le coup d'arrêter d'aller chez Ikea et de se rediriger pour acheter ces verres.
Oui, d'accord. Surtout que c'est pas cher. D'où c'est 1 euro le verre, t'avais les 6 à 6 euros. Et
l'autre phénomène qui a fait du mal à Duralex, c'est que les commandes publiques qui faisaient qu'il y en avait dans toutes les cantines de France, les cantines de France, elles ont trouvé moins cher ailleurs. Donc elles ont été. Parce que la vraie question, c'est un strict problème. Économique. On a été une grande industrie textile en France, dans le Rhône-Alpes, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Vosges. On a eu une industrie textile très florissante. Tout ça, c'est parti à l'étranger. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de relocaliser une production pour produire aussi peu cher que ce qu'est fait à l'étranger? La réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit les Français, est-ce qu'ils ont le budget pour acheter plus cher? Non. Non. Et même ceux qui gagnent suffisamment pour... Ils regardent aussi à quoi ils dépensent, même s'ils ont un bon salaire. Donc la question, c'est comment on fait? On baisse les coûts de fabrication, soit on touche au salaire, soit on baisse les impôts de production. Alors je vous donne un scoop, le gouvernement devait baisser les impôts de production dans le prochain budget, ça ne sera pas fait parce qu'évidemment ça va coûter beaucoup trop cher. Donc la question, c'est est-ce qu'on taxe ce qui vient en France? Ok, on peut pas, il y a la règle européenne. Est-ce qu'on taxe ce qui vient en Europe? À ce moment-là, il y aura des répercussions sur l'industrie chinoise et l'industrie américaine. Donc, soit...
On baisse le coût du travail, par exemple?
Oui, mais alors, c'est ce que je disais, les impôts de production, c'est ce qui était prévu dans le prochain budget, et ça va pas être pris en compte. Ils vont laisser,
mais après,
ça coûterait beaucoup trop cher.
Sur le fait donc de taxer question... l'extérieur, Biden le fait pour les États-Unis, donc on pourrait aussi imaginer à l'échelle européenne d'avoir
ultra puissant et qu'il est plus capable de s'entendre avec lui-même.
L'Union européenne
que...
ensemble, c'est plus fort que la France.
Parce qu'il est plus capable de s'entendre avec lui-même que nous, on est capable de s'entendre avec les autres partenaires européens. Et donc, la question, c'est, on vit aujourd'hui dans un capitalisme mondialisé, donc il faut accepter le fait que dans un certain nombre de domaines, nous ne sommes pas capables de réindustrialiser ou de produire à un coût suffisamment bas pour que les gens achètent français. Voilà.
Et c'est aussi à nous de ne pas accepter, alors là, si on parle de la nourriture, de poulets ukrainiens, par exemple. Alors même s'ils sont en guerre, on n'est pas obligé d'accepter les poulets ukrainiens qui vont coûter 10 fois moins cher, pareil que les poulets brésiliens qui quand même constituent 80% de la volaille qui sont mangés dans les cantines et dans les restaurants. Ce qui est quand même un problème, c'est aussi à la France de faire des efforts et d'essayer au moins de favoriser notre agriculture plutôt que l'agriculture de l'étranger et pareil nos propres textiles plutôt que ceux de l'étranger. Justement, on est avec Stéphane. Et Stéphane, il est chef d'entreprise dans la maroquinerie et il fabrique du Made in France du côté de Lyon. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Stéphane, comment se porte votre entreprise ?
Ben, c'est pas facile. on essaie de faire croître. Vous savez, j'avais fait un partenariat avec vous au mois de décembre. Je sais pas si vous vous souvenez des cadeaux, les compères.
Oui, tout à fait.
Qui était présent, voilà. Donc.
Moi, j'ai pas eu droit. Moi, je peux pas m'en souvenir.
Non, mais c'était pour nos auditeurs, Daniel.
Daniel, oui. Il avait même regardé plus. Alors, après, j'aurais pu le laisser, Daniel. Il y a pas de souci avec grand plaisir.
Alors, Stéphane.
Non, voilà. En fait, vous avez tout dit. Ce qui est génial, c'est que là, vous avez quand même réussi à résumer la chose. Il y a dans un premier temps, il y a une sorte de bon sens paysan où acheter localement, ça va permettre de pouvoir avoir une économie plus vertueuse. Ça va permettre de pouvoir donner des emplois, tout simplement, savoir que Véronique, elle a fait ce t-shirt-là et elle va pouvoir avoir son job qui est pérennisé. Et le deuxième, c'est économiquement. Vous parliez de Duralex. Je vais prendre l'exemple de Duralex, même de mon propre exemple concernant la maroquinerie. On fait notamment des mallettes à couteau. Moi, j'ai essayé de rentrer sur les marchés, vous savez, des CAP, des écoles hôtelières,
ouais,
en restauration. Mais c'est impossible. Moi, en tant que petit entrepreneur, je ne peux pas. En fait, si simplement au niveau économique, on disait... Alors, vous n'êtes pas fabriqué en France, vous ne rentrez pas dans l'appel d'offres, ben déjà, ça changerait toute la donne. Rien que ça.
Mais on n'a pas le droit de faire ça, c'est illégal.
Mais sur un appel d'offres, on fait un appel d'offres français.
C'est contraire aux directives européennes.
On n'a pas le droit, oui. Bien sûr.
Mince, on retourne sur l'Europe, du coup.
Mais
on arrive à l'Europe. Alors, à minima européen, parce qu'au moins, on se battra sur des choses un petit peu plus proches que quand on part en Asie, sur du textile notamment. Mais on prend Duralex. Duralex, toutes les écoles françaises devraient avoir des verres Duralex.
Absolument.
C'est assez simple.
Et à une époque, c'était le cas.
Et c'est comme ça que l'économie, une nouvelle fois, sera beaucoup plus vertueuse et on donnera envie. Parce qu'il y aura plus de jobs, du coup, on réindustrialisera, du coup, on remettra un peu d'argent, du coup, on baissera les coûts. Du coup, on baissera les prix aussi à l'arrivée.
Mais moi, je suis d'accord, Stéphane. Le problème, c'est est-ce que aujourd'hui, alors je parle pas de nourriture, mais sur les habits, est-ce que les habits sont forcément de meilleure qualité quand ils sont fabriqués en France? Malheureusement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais moi, j'ai d'autres exemples et je vous assure que c'est pas toujours le cas.
Je vais vous donner un exemple très simple. Quand je sourçais pour mes t-shirts et mes pulls,
d'accord,
j'ai appelé plusieurs fabricants. J'ai un fabricant qui m'a dit, bon, écoutez, oui, on a toujours une ligne de production en France. On en a une au Portugal, une en Roumanie, une en Asie. C'est l'Asie la meilleure qualité. Voilà.
Bah oui, mais dis-donc, c'est ça. Oui, je sais.
C'est la vérité. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est totalement désindustrialisé.
Exactement. Oui, mais alors, payer plus cher pour un truc moins bien. Moi, je veux bien payer plus cher pour un truc mieux. J'ai pas de problème. On parlait du slip français. Bon, en vrai, payer un caleçon 45 euros, ça me fait vraiment mal. Mais bon, si c'est vraiment pour la sauvegarde des entreprises.
Quand on dit c'est 45, il y a quoi dans le coton?
Non, mais,
il
y a du fil d'or.
Je te dis qu'il y a eu beaucoup de marketing.
Mais ils sont très jolis après leur caleçon. Mais bon, je veux bien faire l'effort. Mais franchement,
ça fait cher.
Ça m'embête de casser un PEL des enfants pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Je veux bien faire l'effort. Mais je veux que ce soit mieux, vous voyez?
Non, mais par rapport, on revient aux appels d'offres. Les appels d'offres, là, ils veulent mettre maintenant des uniformes dans les écoles.
Ouais.
Il y a justement le slip français avec 1083 qui s'est allié pour pouvoir rentrer dans cet appel d'offres-là. Ben, je crois qu'ils n'ont pas gagné. Hein.
Mais non, parce que c'est trop cher, malheureusement.
Oui, mais à un moment, quand c'est l'État, il y a des taxes qui vont être conversées.
En revanche, quand c'est l'État, l'État devrait faire en sorte que ce soit... C'est comme quand on dit que le président doit rouler dans une bagnole française.
Oui, bien sûr, évidemment.
Ça,
je suis d'accord avec vous.
Ça, effectivement.
Je suis d'accord avec vous. Mais après, c'est vrai que le consommateur, il a besoin de savoir que c'est mieux pour mettre plus d'argent, surtout en ce moment, c'est sûr.
Je vais vous donner juste un exemple. Hier, j'étais avec des barbecues Montvel qui sont à Paris. Ouais. Et eux, là, ils viennent de rentrer à l'Élysée. Ça, c'est génial.
Super. Ah bah, bien sûr, c'est top. Il faut effectivement... Mais vous avez raison, et que les entreprises publiques, eh bien, par exemple, les stylos qui sont achetés à l'éducation nationale, eh bien, que ce soit français, et qu'effectivement, en tout cas, nos entreprises publiques, elles s'équipent en matériaux, en voitures français. Et ce serait effectivement la base, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ne peuvent plus se permettre d'acheter Made in France. Mais en tout cas, merci beaucoup Stéphane de nous avoir raconté tous ces exemples. On est également en ligne avec Alexis, qui est conseiller Lambersart dans le Nord, à Lambersart. Bonjour Alexis.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour Estelle.
Alexis, est-ce que vous achetez du Made in France, vous ?
Oui, j'essaye au maximum de effectivement d'acheter du Made in France. Alors après, c'est pas toujours évident parce que il y a des produits aujourd'hui qui sont hélas plus fabriqués, pas fabriqués en France. Mais par exemple, pour tout ce qui est vêtements, moi j'ai une marque que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Cocorico.
Oui.
Et qui est fabriqué justement du début à la fin en France, et je suis un consommateur de ces vêtements-là, qui sont pour moi pas extrêmement chers,
d'accord,
pas hors de prix par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais après qui sont forcément beaucoup plus chers que la fast fashion où on exploite des gens. Enfin, voilà. Après, c'est aussi une responsabilité de se dire aujourd'hui, est-ce que j'achète moins de vêtements de meilleure qualité fabriquée dans mon pays pour participer un peu à l'économie et de se dire c'est comme ça que je vois les choses et du coup je préfère acheter un vêtement plutôt que 4-5 fringues, y compris pour mes enfants. J'ai bien trois sûr. Enfants et je préfère mille fois, j'avais ma grande-fille qui voulait toujours aller sur de la fast fashion, chine, tout ça, moi c'est interdit quoi. Je préfère acheter un vêtement de qualité que d'acheter quatre vêtements qui vont être fabriqués par des communautés qui sont torturées ou qui sont...
Exactement. Mais c'est pas facile toujours de lutter contre ces enfants, même si aujourd'hui il y a plein de jeunes qui essaient d'avoir un comportement vertueux.
Oui, voilà. Après, il y a aussi aujourd'hui, dans une société où on consomme des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous.
Complètement.
Et dont on pourrait se passer pour acheter justement un peu plus français, quoi. Être un peu plus dans le patriotisme économique, parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, les hommes... Il y a quand même plusieurs partis politiques actuellement qui s'emparent un peu du sujet et je pense qu'ils pour le coup ils sont un peu dans le vrai quoi.
En tout cas bravo pour votre comportement, voilà, et vous faites l'effort effectivement d'essayer d'acheter français pour sauver les entreprises tricolores qui sont en difficulté. Notre invité sur ce débat, c'est Rodolphe Bonas, il est expert de la consommation. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Et bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a vu, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui souffrent en ce moment, beaucoup d'entreprises textiles. Concrètement, on peut faire quoi pour les sauver? Parce qu'on a l'impression que ça va être compliqué.
Malheureusement, c'est pas compliqué, c'est même très compliqué. Et le débat que vous avez évoqué aujourd'hui est absolument passionnant. D'abord, vous donner un petit chiffre. Il faut savoir que 50% de la richesse nationale, ce sont nos achats. C'est-à-dire que 50% du PIB chaque année, c'est les produits que nous achetons tous les jours dans les magasins, et la consommation des Français, c'est 50% de la richesse nationale. Ça veut dire quoi? C'est que sur la fameuse phrase, pour ceux qui ont connu ça, nos emplettes sont nos emplois, eh bien finalement, elle est vraiment d'actualité. La grande difficulté qu'on a, c'est la grille de lecture. Et vous l'avez évoqué pendant votre débat. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture de marque étrangère dont l'usine est située en France, ou bien acheter une marque française dont l'usine est en dehors de France?
Et la réponse, c'est quoi?
Eh ben, la réponse, il y en a pas. C'est-à-dire que sur le principe, le mieux, c'est d'acheter, bien évidemment, des marques françaises qui produisent en France. Là, on est double gain. Mais c'est vrai que si vous achetez une marque, finalement, française dont le produit est fabriqué en dehors de France, toute la valeur ajoutée va venir nourrir finalement l'entreprise française, mais en revanche, une partie va se trouver exportée en dehors de France. Et concernant le textile, et là c'est un point qu'il faut quand même évoquer, c'est que c'est un secteur qui est en très grande difficulté et qui vit un bouleversement absolument radical avec l'apparition de la fast fashion et maintenant de ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Et quand on regarde un site comme Chine qui finalement crée chaque jour, imaginez-vous, 8000 références de vêtements sont créées sur le site, 8000 nouvelles références par jour. Donc vous vous doutez bien que tous les dispositifs de vente de vêtements traditionnels sont complètement balayés par cette approche. Donc le seul moyen de sauver nos entreprises de textile en France, si tant est que ce soit possible, c'est d'avoir une démarche dans laquelle on accepte d'acheter sans doute moins de textiles plus chers avec une approche très cocardière.
Après, la différence de prix, elle varie parfois d'1 à 50. Donc, c'est vrai que
c'est absolument colossal. Hein.
Il faut vraiment que la qualité elle soit au rendez-vous. Hein.
Alors, la qualité n'est pas forcément, juste pour vous donner un petit éclairage.
Bah, c'est ça le problème.
Et vous l'avez évoqué, Estelle, et c'est très vrai. Il faut savoir que même, on a souvent, il y a 20-25 ans, été lourdement concurrencé sur le marché du textile par la Chine, qui était qui produisait beaucoup de vêtements. Même la Chine, aujourd'hui, sur les vêtements dits bas de gamme, c'est-à-dire, bah, c'est plutôt des marchés qu'elle a laissés en dehors de Chine, c'est-à-dire qu'ils sont occupés par l'Inde ou bien par, la Tunisie ou bien le Bangladesh, qui fabriquent ces vêtements-là. La Chine s'est spécialisée, elle, dans des vêtements de haute technicité. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez des doublures, des fermetures un peu complexes. Ouais. Et en effet, ils sont extrêmement forts là-dedans. Mais parce que c'est de la haute technicité, et même eux ont décidé de ne pas conserver ces lignes de production parce qu'elles ne correspondent même plus au standard de leur propre économie. Donc vous voyez que c'est très compliqué. Le textile, ça sera très difficile de retrouver des entreprises massives de marques françaises avec des productions françaises en France. Ça sera difficile. Ça restera marginal. Il faut les soutenir, mais ça restera marginal.
Bah merci beaucoup en tout cas Rodolphe Bonas pour toutes ces explications. On va terminer avec Eric qui nous appelle d'Issou dans les Yvelines. Bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Bonjour. Et vous, Eric,
de me recevoir.
Ben de rien. Vous, Eric, le Made in France, c'est pas trop votre truc?
Pas du tout. Non. Depuis que j'ai connu Temu, un site en Chine, et ben en fin de compte, moi je suis pas pour acheter un vêtement qui va me durer 20 ans.
Parce que les
mouvements, déjà au niveau du ma taille, ça peut changer, etc. Mais aussi c'est j'aime bien avoir des nouveaux fringues, nouvelles chaussures, etc. Et sur les sites effectivement asiatiques, on trouve tout et
Oui, Temu et Chine, c'est pareil.
C'est ça.
Mais enfin, et ça vous gêne pas quand même que c'est effectivement quand vous achetez un t-shirt à 1 euro, vous savez à peu près dans quelles conditions il a été fait ce t-shirt, a priori par des enfants, par des ouvriers qui travaillent dans des conditions déplorables.
Alors, par contre, faut pas se leurrer. Les grandes marques comme Nike ou même d'autres, c'est fabriqué aussi en Chine.
Hein. Ça dépend.
Vous avez
après c'est pas forcément les mêmes usines. Vous voyez, quand vous avez des chaussures à 150 euros, c'est pas la même chose qu'un t-shirt à 1 euro. C'est-à-dire que vous avez aussi des usines en Chine où je veux dire les enfants ne travaillent pas avec un certain code du travail, etc. Et puis d'autres en revanche.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais après, c'est au
vous, c'est le prix qui compte en fait, Eric, c'est ça. D'abord.
Voilà, c'est le prix, c'est le prix qui compte parce que ça peut effectivement, j'ai pas de grands moyens donc. Je trouve, même j'ai fait des comparaisons à chaque fois, je fais des captures d'écran quand je vois un produit, quand j'ai une pub, et je fais une recherche sur Internet, via Google, et souvent, on trouve nettement moins cher en Chine, quoi, pour le même produit.
Oui,
j'ai eu l'expérience avec des meubles Ikea.
Écoutez, merci beaucoup Eric en tout cas d'avoir été avec nous. On sent que le chemin est long pour arriver à ce que les gens consomment tous Made in France. On va terminer avec des messages. Paul est le résultat de notre sondage.
Oui, ce message de Christelle qui nous dit: j'essaye de consommer français dès que je peux. Je touche 780 euros par mois, donc je le fais quand c'est possible. Le problème, c'est le coût qui peut doubler en fonction de la provenance du produit, comme pour les fraises, elle donne cet exemple-là. Seb nous dit la même chose, tout dépend des moyens et du sens des priorités. Pour ma part, j'achète mes caleçons sur le marché, 5 euros le caleçon, mais je préfère mettre le prix quand je veux manger une bonne côte de bœuf française, par exemple.
Mais je comprends parfaitement. Alors, le résultat de notre sondage, faut-il se forcer à acheter Made in France?
Eh bien, c'est très, 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 très serré, puisque vous répondez oui pour 51% d'entre vous.
Ah, mais alors là, on est vraiment marge d'erreur, mais enfin, c'est quand même le oui qui est majoritaire.
Ça vous arrange bien que la marge d'erreur soit faible quelquefois.
J'avais envie que le oui soit vraiment majoritaire, mais écoutez.
T'as truqué le sondage?
Mais non, j'ai pas pu.
Tu as eu peur?
Mais non, si j'avais pu, je l'aurais fait, tu penses bien. Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant, on parlera du succès du drive et ensuite on ouvrira peut-être le coffre RMC et ce sera les immanquables. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On parle conso dans Estelle Midi chaque jour dans l'émission à 14h30, c'est 14h31 et c'est l'heure donc d'accueillir Charlotte Méritant, RMC Conso.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et on va fêter un anniversaire avec vous aujourd'hui, Charlotte. C'est l'anniversaire du Drive. Le Drive a 20 ans. Alors, le Drive, c'est cette formule qui permet de commander ses courses sur Internet et d'aller les chercher en voiture. Et ça rencontre un succès qui ne s'essouffle pas.
Effectivement. Alors, les précurseurs du Drive, c'est Chrono Drive aujourd'hui. C'est une filiale d'Auchan. Et pour leurs 20 ans, ils ont sorti quelques chiffres qui sont très parlants. Le Drive, en 2023, c'était 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 12% de plus qu'en 2022. Alors, forcément, au fil du temps, tous les distributeurs s'y sont mis. Et aujourd'hui, c'est même Leclerc, le grand leader, qui a quasiment la moitié des parts de marché. Il existe près de 7000 drives en France et c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a un vrai engouement, un vrai phénomène derrière.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès ?
Il y a plusieurs raisons. Alors, évidemment, la première à la création, c'était tout simplement que c'était perçu comme une révolution contre la charge mentale que représente le fait de faire ses courses, contre la corvée de pousser son caddie dans les rayons. Et le Drive, c'est aussi forcément un gain de temps incontestable.
Il y a eu le Covid, évidemment, qui a aussi largement contribué à ce succès.
Oui, bien sûr, c'est là que le concept a littéralement explosé. Avec l'extension de cette idée de Drive à peu près tous les types de commerce. Alors, on a appelé ça un peu différemment, le click and collect, mais finalement, c'est la même chose. Oui. Hein, c'est un genre de Drive. Et puis, il y a une autre raison plus récente qui m'a été évoquée par Sixtine Flandroy, qui est directrice marketing de Chrono Drive, qui est moins intuitive et pourtant assez logique, c'est l'inflation.
C'est-à-dire ?
L'inflation, parce que, en fait, déjà, la formule Drive en elle-même, elle n'est pas moins chère que d'aller faire ses courses, mais les prix du Drive, ce sont à peu près ceux d'un hypermarché. Donc finalement, ça coûte moins cher de faire une fois par semaine ses courses au Drive plutôt que d'aller tous les jours dans les magasins de proximité qui sont plus chers pour des raisons évidentes de loyers plus élevés en centre-ville, etc.
Oui, mais enfin, tu peux aussi aller faire tes courses à l'hypermarché, ça coûtera même prix, même moins cher.
Il y a une deuxième raison qui explique que c'est moins cher finalement de faire ses courses sur le Drive, c'est que vous maîtrisez votre panier quand vous faites vos courses sur Internet.
Oui, on n'est pas tenté par les rayons.
C'est ça qui va pas, quoi.
Déjà, t'es pas tenté par tout ce qui attire ton attention en rayon.
Tu es tenté sur ton écran, tu fais défiler le produit. Oh, il est bien ce produit.
Je trouve ça triste, moi, de faire ses courses sur son écran internet. Je trouve ça affreux.
Oui, l'avantage.
On oublie toujours un truc.
Ouais, mais alors après, tu peux recommander puis aller chercher. Mais l'autre avantage, c'est que aussi le prix s'affiche en bas de l'écran. Donc, tu ajoutes un article dans le panier et le prix augmente et ça permet de voir exactement ce qu'on dépense, ce qu'on va payer.
Ça veut dire que c'est un manque à gagner pour les distributeurs.
Alors, c'est vrai que les opérations commerciales de marque fonctionnent pas forcément sur Internet, que vous êtes un petit peu moins attiré par ce genre de sollicitation. Et puis, en plus, il y a moins de choix. Mais bon, qui dit moins de choix, dit moins de stress. Aussi, les études psychologiques ont montré que trop de choix, c'était du stress supplémentaire.
Vous avez ça enlève le stress de prendre un caddie.
Je me sens bien. Courses. On n'a pas assez de domaines pour stresser qu'on va stresser avec le caddie en plus.
C'est génial, t'es dans le caddie, là tu regardes, machin, et t'es avec ton caddie et tout, c'est top.
Il n'y a pas les enfants aussi qui supplient d'acheter des tas de paquets.
Jamais
pour
faire ses courses avec ses enfants.
Bah oui.
Ah bah non, ça c'est la règle numéro un. Qui sont les drivers, on va dire ?
Alors, les drivers, ce sont généralement des jeunes entre 35 et 50 ans, des familles avec enfants qui ont besoin de gagner du temps et puis qui habitent en périphérie des villes, ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture tous les jours. Et puis évidemment, il y a une question de génération. Ce sont des gens qui sont nés plus ou moins avec Internet et qui ont l'habitude d'utiliser Internet pour faire leurs courses.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces gens ne se font pas livrer.
Oui, il y a la livraison à domicile qui concurrence le Drive. Alors certains y voient une solution complémentaire, mais c'est vrai que la livraison à domicile, elle est de plus en plus plébiscitée aussi. Alors, elle est un petit peu plus chère en général. Les produits sont plus chers. Il y a des frais de livraison aussi.
Et souvent, c'est gratuit quand ton panier, quand
au bout d'un certain
nombre d'achats, d'achat. Mais enfin, si tu vas faire tes courses en supermarché pour toute la famille, tu les atteins vite. Mais au-dessus de 50 euros, c'est gratuit.
Oui, c'est vrai que le panier moyen en livraison à domicile, comme en Drive, est plus élevé que en rayon.
Oui. Bah oui, parce que tu prends tous tes produits ménagers et les trucs qui sont encombrants, style le papier toilette, tout ça, et tu fais toutes tes courses de produits ménagers. Donc en fait, je comprends pas pourquoi les gens font du Drive, se déplacent au supermarché, alors que ça leur coûterait le même prix de se faire livrer. J'avoue, je comprends pas.
Ouais, alors certains distributeurs appliquent des prix plus élevés même sur les produits au choix quand c'est la livraison à domicile qu'en Drive. Et puis alors c'est vrai que ceux qui n'ont pas de voiture vont plutôt choisir la livraison à domicile.
C'est mieux.
Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce qui se développe aussi, ce sont les drives piétons dans les centres-villes. Mais c'est un petit peu plus compliqué de trouver un modèle économique qui fonctionne parce qu'il y a des coûts évidemment de transport puisqu'il n'y a pas d'entrepôt dans les centres-villes. Donc ça coûte cher. Il y a de la logistique et les loyers en centre-ville qui sont forcément beaucoup plus élevé qu'en périphérie.
Vélo alors à Paris.
Donc pour l'instant non, mais c'est possible. Il y en a qui veulent développer ça.
Bah t'as de la livraison à vélo à Paris.
Non, mais que toi t'ailles chercher avec ton vélo.
Bah, tu peux. Ça doit exister. Tu peux.
Oui, tu peux. Les drives piétons, ils vérifient pas si t'es à pied ou en vélo après.
Les drives piétons, ça fait rien dire, parce que drive, ça veut dire que tu conduis une bagnole.
Ouais, ils ont appelé ça.
Ils ont repris la main.
Ils ont repris le terme. Ah, c'est vrai que c'est peut-être un peu idiot, mais ils ont gardé le terme.
Drive, c'est en voiture.
Mais exactement. Bon, merci beaucoup. Charlotte Mériton, on parle de quoi lundi?
Lundi, je vais vous parler de. Vous savez qu'on peut transformer son vélo classique en vélo électrique. Est-ce que c'est une bonne solution en termes de prix? Est-ce que c'est une bonne solution en termes de transport, tout simplement? On va voir ça.
Eh bien, nous verrons ça lundi. Charlotte Mériton, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi et en podcast. Et ça cartonne en podcast. Bravo, Charlotte. RMC.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, peut-être qu'on ouvrira le coffre RMC et puis il y aura les immanquables de Paul Lassen. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On va dans un instant voir les immanquables de Paul Lassen, mais tout de suite, place au jeu du coffre, Paul.
Oui, puisque Nicolas a été sélectionné. Nicolas qui a déjà, d'ores et déjà, gagné un barbecue à gaz Weber d'une valeur de 700 euros. Mais la grande question que tu vas lui poser, Estelle, c'est est-ce qu'il va vouloir ouvrir le coffre ? Deux possibilités, s'il ouvre soit une enceinte connectée à LED, soit la Total Euro 2024.
Voilà. Il parle de barbecue ?
Ah ben il parle de barbecue. Et c'est ça qu'on va demander à Nicolas, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Nicolas.
Oh Estelle, comment c'est ?
Bonjour.
Bah écoutez, ça va Nicolas.
Bon, à Marseille, le barbecue, il l'a déjà.
Mais je sais pas.
Vous avez... déjà.
Ben voilà, tu vois.
Mais est-ce que vous avez un Weber à 720 euros ?
Eh non, on n'a pas les moyens ici d'avoir un.
Eh ben alors ?
Qui sait ?
Nicolas, c'est un choix compliqué. Soit vous gardez le barbecue à 720 euros, vous pouvez toujours le revendre. Soit.
Moi, je vous le rachète, moi, moitié prix.
Oui, je sais, peut-être après.
Soit vous ouvrez le coffre, et dans ce coffre, il y a soit l'enceinte connectée, soit la Total RMC, avec un fauteuil de la FFF, avec un vidéoprojecteur, avec plein de choses, une machine à glaçons. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, ma foi, c'est pas facile, hein. Allez, comme dirait Vincent Moscato, qui a peur est un peu heureux, j'ouvre le coffre.
Ah. Vous êtes sûr, Nicolas?
Mais bien sûr, plus cher.
Parce que si jamais c'est l'enceinte.
Il en fera un cadeau, il s'en fout.
En même temps, l'enceinte, j'ai vu. Non, mais elle est belle. C'est une belle enceinte, c'est pas une enceinte.
Bon. Mais c'est un indice, c'est celle ou pas?
Non. Sérieux. Non, je vais vous dire.
J'insiste beaucoup quand même.
Je vais vous dire, le coffre, on l'a ouvert trois fois. Deux fois. Alors, la première fois, le lundi, j'ai fait gagner une enceinte. Mardi, j'ai fait gagner la totale. Hier, j'ai fait gagner une enceinte.
Lundi, on dit link.
Oui, bon, alors d'accord. Bon, bref, j'ai fait gagner deux fois l'enceinte et une fois la totale. Hier, j'ai fait gagner l'enceinte.
Ouais. Mais je reste. Vous ne réussirez pas à m'influencer.
Ah, mais je vous influence pas. Mais moi, j'adore ouvrir. J'ouvre le coffre.
Allez, zou.
Allez, on y va. 32-16, dièse. J'ai l'enveloppe, Nicolas.
Allez.
Écoutez le bruit de cette enveloppe, c'est décaché. J'ai un coffre et dans le coffre, il y a l'enveloppe.
Ah, d'accord.
Oui, c'est compliqué.
Ah, oui, c'est compliqué.
Ah, oui, c'est dur chez vous.
Ouais. Nicolas.
Oui.
Vous croyez que je porte chance ou pas?
Je sens bien.
Allez.
Bah vous avez raison, je porte chance, Nicolas. Bravo. Vous avez remporté la Total RMC.
Mino, tu le sais.
Et oui, l'écran de projection 100 pouces, le vidéoprojecteur, le barbecue électrique, le fauteuil gaming, la machine à glaçons et la mascotte de l'Euro 2024. Tout ça, c'est pour vous, Nicolas.
Ah, la mascotte, je vais la revendre à Daniel, à moitié prix.
Non, moi je veux le Weber, moi.
Et merci d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup. Merci
et Nicolas, et bon Euro à vous.
Merci beaucoup.
Nouvelle alerte. C'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter la totale du coffre Euro.
Et ça tombe toujours ici en fait.
Ah bah ça,
nous on l'a pas encore eu dans l'after.
Dépêchez-vous, il faut jouer pour
le cadeau. Savoir. Vous envoyez coffre au 732-16. Tout de suite, vous avez 5 minutes pour jouer pour vous inscrire.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Enfin, l'immanquable, à mon avis, de Paul Lassen, parce qu'évidemment, on est très en retard. L'enquête du jour, Paul.
Elle touche le maire de Grenoble, Éric Piolle. L'élu est sous le coup d'une enquête, nous dit le Canard Enchaîné. Il aurait organisé un tour de passe-passe budgétaire pour verser 16 800 euros à son ancienne première adjointe, Elisa Martin. L'hebdomadaire affirme qu'un ancien collaborateur d'Éric Piolle a bénéficié d'une hausse de salaire de 600 euros, augmentation après laquelle on lui a demandé d'en rétrocéder 400 à Elisa Martin pour l'aider à boucler ses fins de mois.
Vous êtes choquée, Anne-Sophie Saint-Père, par cette affaire. C'est vrai, on croyait quand même Éric Piolle au-dessus de tout soupçon.
Oui, alors on a eu cette discussion. Évidemment, je suis choquée. Bon, laissons les enquêteurs faire leur travail, etc. Après, je tombe pas de ma chaise. C'est-à-dire que des élus qui sont pris la main dans le sac pour détournement de fonds publics, corruption, il y en a plein. Il y en a beaucoup trop en France. Et la difficulté, le fait que ça va se répéter, parce qu'il n'y a pas de sanctions politiques très fortes là-dessus. Enfin, je veux dire, on a Nicolas Sarkozy multicondamné qui continue à s'exprimer sur absolument tous les sujets. Cahuzac pris la main dans le sac de la pire manière qui soit, qui essaye de revenir en... Et il a essayé de revenir. En fait, aujourd'hui, une carrière politique ne s'arrête pas parce qu'on a été malhonnête. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème.
Tu aimerais bien que ça s'arrête tout de suite pour Piolle. On pourrait être d'accord pour une fois.
Mais en tout cas, pour tous les politiques. Mais je te rassure que de la gauche à la droite, il y a des affaires de mauvaise gestion de fonds publics et de détournement et d'irrégularité et d'illégalité.
J'avoue que Éric Piolle, je pensais pas que c'était possible.
La vertu.
Alors, moi, Éric je le Piolle. Connais pas. Laissons l'enquête faire son travail. Mais je suis, encore une fois, en France, ça n'est pas assez mal vu et sanctionné. Quand on regarde par rapport à des pays.
Mais on peut rester
en politique alors qu'on s'est livré à des détournements de fonds. On peut rester en politique alors qu'on a fait plein de malversations. Ça n'existe pas dans des pays scandinaves par hasard.
Pas un homme qui mange des graines de chia tombé dans le vice. Piolle, c'est la vertu, c'est les vers, c'est la vertu, c'est les leçons qui tombent du ciel. C'est nous allons vous
du
amener
coup,
la bonne parole.
Pour toi, c'est normal que la droite le fasse. Bon, ok, d'accord.
Ah non, c'est pas du tout normal. Alors.
En fait, ce que veut dire Daniel, c'est que la droite, on va dire le PS et allez, on va dire la droite et la gauche classique donnent un peu moins de leçons. Donc à la limite, quand il y a un élu,
un peu ce que c'est que la vie, mais eux qui.
Mais non, c'est choquant. Mais c'est vrai que quand
la droite est tout le temps en train de donner des leçons sur les délinquants en ayant des condamnés dans ses rangs.
Les Verts, c'est censé être une nouvelle façon de faire de la politique. C'est un parti qui est censé être jeune, qui est censé être moderne. Terrible. Et que ça, c'est de la vieille politique, c'est de la vieille Paul. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un truc pour acheter les voix.
Malheureusement, je crois que ça restera la politique pendant très longtemps, tant qu'il n'y aura pas de réelles sanctions contre ça. Tant qu'on pourra continuer à faire de la politique en traînant des casseroles.
Parce que c'est pas
sanctionné. Après, c'est pour aider quelqu'un à boucler ses fins de mois.
Oh, bah oui. En tout cas, les Verts, en une semaine, ils nous ont un petit peu régalé. Parce que la semaine dernière, on avait eu Doucet de Lyon, qui avait pris un jet privé pour aller à Bilbao, mon Dieu.
C'était pour voir du foot. On peut l'excuser.
Et alors, à quelques jours des élections, vous allez rééquilibrer le temps de parole pour tout le mal que Daniel Riolo dit de LFI ou des Verts, ou comment vous arrangez?
Écoutez, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûre que ça leur fasse du mal. Tu sais, donc, la défense du jour, rapido.
Celle de Roman Polanski par Fanny Ardant. Oui, dans une interview au magazine Causeur, l'actrice défend l'honneur de Roman Polanski contre le maccartisme MeToo. Ça, c'est elle qui le dit. Une prise de position peu étonnante. En 2020, elle dénonçait déjà la condamnation du réalisateur. Et en 2022, elle déclarait dans une interview au magazine Le Point, oui, il a fait des erreurs, mais qui n'en a pas fait? La moitié d'entre nous devrait être en tôle.
Ah oui, quand même, là, c'est...
Je trouve ça effrayant. Il y a une vraie rupture générationnelle, je pense, entre plein de gens qui témoignent aujourd'hui et le fait qu'elle s'exprime comme ça. Elle dit notamment, une société qui accepte MeToo, c'est parce qu'elle a peur, et la peur, ça met les gens à genoux. Ben non. Ceux qui sont à genoux, celles qui sont à genoux, sont les victimes. Et heureusement, MeToo permet de leur redonner la parole. Voilà, je trouve que cette interview est complètement décalée. Mais je vais laisser Anne-Sophie.
Toi qui défendais les terminer. Artistes, là, qui étaient tous. Encore une qui tape à côté de la plaque.
On peut avoir une position.
Bien à côté, quand même. Là, pour le coup, Anne-Sophie Saint-Père, ça vous est. Ça...
Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Bon, faut aussi savoir que Fanny Ardant, elle défend un film de Polanski parce qu'elle est dedans. Mais là, c'est l'ancien monde qui s'exprime. C'est assez triste, un peu caricatural, le côté maccartisme du MeToo. Enfin, voilà, bon.
Elle dit, celui qui dénonce reste une balance. Bah non, quand on dénonce.
Et là, on parle quand même d'un homme qui a 10 femmes qui ont porté plainte contre lui pour agression sexuelle et viol. Enfin, c'est, voilà. Donc, peut-être qu'elle, ça la dérange pas. Mais non, la nouvelle génération a pas forcément envie de subir ce type de traitement.
Allez, tout de suite, Vincent Cerussi, notre humoriste. Cerussi n'a pas tout compris.
RMC, Estelle Midi.
Cerussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Manon Aubry propose une allocation de 1158 euros par mois pour les étudiants.
Bah, en fait, LFI, ça ne veut pas dire la France insoumise, hein, ça veut dire les finances infinies. Ces gens ont énormément d'argent. Mais bon, il faut aider les étudiants. Ça n'a rien à voir avec la volonté de choper des voix avant le 9 juin. En plus, 1158 euros, c'est quand même énorme. Hein. C'est surtout pour les étudiants en lettres qui gagneront jamais autant dans leur vie professionnelle. Il faut quand même y penser. Alors, LFI s'inspire du modèle danois, hein, où les étudiants sont rémunérés pour étudier. Moi, j'ai une autre proposition, qu'on rémunère les étudiantes danoises pour venir étudier à Paris. Voilà, échange culturel, je trouve ça plus sympathique. Voilà.
Opération. Bon, vous ne soutenez pas cette opération, Vincent.
Bah, en tout cas, si la loi passe, vous ne me retrouverez plus sur RMC, mais bien à la Sorbonne, hein, où je reprendrai donc mes études. C'est vrai que c'est une proposition assez inégalitaire, parce que 1158 euros à Paris, tu fais quoi? Tu loues une chambre de bonne et t'achètes un pack de bière. Alors que 1158 à Rennes, bah, t'achètes Rennes. Donc voilà, c'est pas très juste, quoi. Surtout qu'il va y avoir des petites entourloupes, hein. 1200 euros par mois pour aller à la fac, on va en voir certains d'un coup qui vont faire 12 ans d'études, des PhD et des masters de double diplôme, des mecs qu'on n'a jamais vus en amphi qui vont se pointer. Non mais moi, l'épopée des Mérovingiens sous Louis XVI comme fer de lance de l'expansion napoléonienne, ça me passionne. Voilà, ça me passionne. Alors je sais que pour vous, Estelle, les étudiants doivent bosser.
Si t'es en prépa d'une école de commerce, c'est sûr que tu n'as pas le temps de faire un deuxième boulot. Si t'es en sociaux, un peu plus.
Alors, Estelle,
je schématise.
Écoutez, moi j'ai fait une fac de sociaux.
Oui,
bah
on voit le résultat. Oui,
et entre les grèves et les manifs, au Crous, on n'avait pas le temps de bosser. Donc vous dites un peu n'importe quoi. Hein.
Vous pouvez pas nier quand même que certains étudiants ont besoin d'argent.
Bah oui, bien sûr. Il faut les aider. Et d'ailleurs, ces 1158 euros, ça va aussi aider les familles, je pense. T'as des parents qui vont aller voir les profs à la fac. Il faut que mon fils redouble. Mais il a 18 de moyenne. C'est pas suffisant. Faites-le redoubler. J'ai un crédit à rembourser, moi. Voilà, ça va aussi aider les familles.
Vincent, dans l'émission, on a aussi parlé des JO et des grèves qui se profilent.
Oui, oui, notamment les restaurateurs et les facteurs parmi les autres professions qui veulent se mettre en grève pour les JO. Mais bon, c'est malheureux, car comme le dit Daniel,
ce qu'on constate une fois de plus à l'occasion de ces divers chantages, c'est la grande passion en France pour le dialogue, pour la conciliation.
Oui, c'est vrai qu'en plus Daniel est souvent dans le dialogue.
Ah oui.
Ce sont tous des guignols, tous des guignols. Et bah ton fils, il fait une merde sur une toile, c'est mieux que Picasso aussi, le goût et les couleurs.
Taisez-vous, Fred.
Le dialogue, hein, voilà, Daniel, tout en nuance.
Toujours.
Non, écoutez, la grève. Moi, j'avoue, la grève de la Poste, ça m'a fait rire. Ils ont dit ras-le-bol, nous, on arrête de bosser, comme s'ils avaient déjà commencé. Bon, ils se mettent en grève jusqu'à mardi. Enfin, ils ont dit sous 5 jours ouvrés, hein, donc ça peut être jusqu'à jeudi. Mais bon, le problème, c'est qu'ils organisent la grève par mail, quoi. Et comme personne n'est devant son ordi, il n'y en a pas un pour choper les infos, donc je ne sais pas si la grève va avoir lieu.
Et pour tout arranger, eh ben Netflix sort un film sur un requin dans la Seine qui mange des nageurs du truc.
Vous vous rendez compte, oui, le film s'appelle Sous la Seine.
J'ai envie d'aller le voir.
Mais moi aussi, d'ailleurs, on a un extrait du film. C'est la meilleure scène du film,
c'est quand
Hidalgo se fait bouffer, c'est génial. Non mais il y a pas pire comme pub pour les JO, quoi. Jusque là les nageurs olympiques pensaient ressortir contaminés de la Seine, bah là ils vont pas ressortir du tout visiblement. Le seul point positif, c'est que bon, s'il y a vraiment un requin dans la Seine, les Jeux paralympiques vont débuter beaucoup plus tôt et voilà,
non.
C'est vrai qu'il y en a qui terminent.
Bon, il y a quand même certains scientifiques qui sont vraiment énervés contre ce film, ils affirment que c'est mensonger. Merci pour eux, et qu'un requin ne pourrait pas vivre dans la Seine.
Heureusement,
c'est tellement premier degré.
Mais c'est ça, ces mecs, si tu les mets devant Star Wars, ils font un AVC. Hein. Maître Yoda n'aurait jamais pu exister. Bah oui, on sait.
Merci.
Hein. Surtout que dans la scène, on sait très bien que c'est pas le requin qui tue, c'est l'eau. Donc dans tous les cas, c'est juste n'importe quoi.
Merci beaucoup, Vincent Cerroussi. Cerroussi n'a pas tout compris tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi et en podcast. RMC.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Merci Vincent.
Merci à vous.
Et bon